Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous est présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.
Bonjour, c'est Lis des livres, votre émission littéraire sur CFM, en rediffusion le samedi à 18h et diffusée le mardi à 12h35. Elle vous est présentée par Fred et Monique. Bonjour Monique.
Bonjour Fred.
Et par Joël de la librairie La Folle Avoine qui aujourd'hui continue sa petite chronique sur André Léo.
Bonjour.
Bonjour Joël.
On va vous présenter un roman policier. Cette semaine, qui s'appelle Jérôme Degger de Yann Manoc en livre de poche, qui a été publié à l'origine chez Albin Michel, et une bande dessinée jeunesse, Enola, les animaux extraordinaires, aux éditions de La Gouttière. Donc pour commencer, un roman policier, Jérôme Degger de Yann Manoc. Alors il a remporté de nombreux prix. Le prix SNCF du Polar 2014 et le prix Quai du Polar 2014. Il a 65 ans, l'auteur. C'est l'âge de l'écrivain, pas le roman. Et jusqu'à maintenant, il était un peu inconnu au bataillon des auteurs de polar. C'est son premier essai dans le genre. Et pour un homme qui dit ne pas connaître grand-chose aux écoles du roman noir, il s'est quand même bien inscrit dans une tendance actuelle qui consiste à faire voyager les lecteurs. Depuis, il a publié une suite à ce roman qui vient de sortir, là, je pense en avril 2015, qui s'appelle Les Temps Sauvages. Donc la suite de Jérôme Degger s'appelle Les Temps Sauvages. Et voilà, nous on est assez impatients de le découvrir. On tourne autour depuis quelques temps là, et je pense qu'on va s'y plonger. L'action se situe en Mongolie, comme je vous disais. Les romans policiers actuels nous font voyager. C'est un petit pays coincé entre la Chine et la Russie, qui a subi la guerre froide de plein fouet et ne possède un régime démocratique que depuis 1992. Les intérêts de ces deux grands voisins interfèrent grandement dans l'évolution de ce pays en faisant miroiter aux hommes le pouvoir et l'argent, comme dans toute société bien évoluée actuelle. Et en lisant ce livre, on verra que la Mongolie est un personnage à part entière. Et ça, c'est vraiment un élément du roman qui en fait tout l'intérêt et qui en fait tout le charme aussi. L'auteur explore la beauté sauvage. Effectivement, la Mongolie, nous, on a tous une image de la Mongolie un peu mythique à cause des films qui ont été tournés là-bas. Je me rappelle avoir vu un film avec un chien jaune, qui est un film pour enfants avec une petite fille et un chien qui est assez splendide, où on voit la steppe. Et Yann Manoc, dans ce livre, il fait des descriptions particulières de la steppe et de sa beauté absolument magnifique. Mais on explore aussi les bas quartiers de la capitale, Ulaanbaatar, où les anciens nomades viennent se réfugier dans l'espoir d'une vie meilleure. Donc on a beaucoup d'informations sur les rites dans les yourtes et les traditions culinaires qui sont assez originales, enfin pour nous occidentaux, du genre du thé au beurre, du thé salé, du lait d'yak et des confitures de myrtille, en passant par la marmotte, dont je vous laisserai vous-même découvrir les détails de la préparation, qui sont assez truculents. Donc pour revenir au scénario, l'inspecteur Jérôme Degger a été envoyé dans la steppe pour enquêter sur le corps d'une petite fille découverte sur son tricycle sous un tas de neige. Mais auparavant, il avait été réveillé bientôt pour constater un massacre dans une usine chinoise où trois contremaîtres ont été tués et disposés dans une mise en scène évoquant un crime sexuel. Quel lien y a-t-il entre ces deux affaires? Ça va être tout le thème du livre, en fait. Je ne vais pas m'embarquer dans une description un peu plus poussée parce que l'histoire est assez complexe. Même si on s'en sort très bien dans la compréhension, hein, mais à raconter, c'est complètement fou. Ce qu'il faut dire, c'est que la mort de cette petite fille, enfin la découverte de ce cadavre de petite fille, ça ravive la colère de Jérôme Degger, parce que lui-même a vécu la mort d'un enfant, de sa propre fille, qui s'appelle Kouchi. Il jure donc par conséquent de donner à cette gamine qui trouve sous la neige une sépulture selon les traditions mongoles, et de retrouver les meurtriers ainsi que ses parents. Bon, Jérôme Degger, comme tous les bons détectives de romans policiers, est un homme blessé. Et puisque ça ne suffit pas d'avoir perdu un enfant. Sa fille aînée le déteste, se drogue et fréquente des gens louches. Et elle le pense responsable de la mort de sa petite sœur. Et sa mère, donc l'ex-femme de Yerul Degger, est devenue folle. Donc Yerul Degger, il a quand même un gros, gros, gros passif. En plus, évidemment, il est entouré de flics corrompus, mais par contre de femmes intègres, hein, et qui sont prêtes à tout pour aider ce surhomme à faire la justice. L'aventure allait semer d'embûches, avec des méchants à toutes les pages, des quads hurlant dans la steppe. On a aussi un épisode avec des moines adeptes de la méthode forte pour redonner à Yerul Degger une unité intérieure alors qu'il est envahi par le doute et la folie. Alors ça, c'est la phase un peu Bruce Lee. Donc c'est un polar à facettes. Cet épisode Bruce Lee avec les moines là, c'est pour donner la sagesse et le contrôle de soi, mais ça se fait à coups de poing quoi. C'est pas mal. Donc même si l'histoire va loin, on ne se pose pas de questions dans ce polar bondissant. Je redis que les descriptions de la steppe sont envoûtantes et on comprend bien la violence qu'exerce le tourisme sur ces populations aux rituels ancestraux. Le problème de la mondialisation, évidemment, est plus que développé dans ce roman par l'intrigue. Et c'est le choc d'une culture qui était essentiellement liée liée au climat. À la terre et à un travail qui se fait au rythme des saisons et c'est le choc de la civilisation avec une urbanisation à outrance et cette civilisation aux traditions ancestrales. C'est évidemment pas que le problème de la Mongolie aujourd'hui et ça permet d'envoyer le livre dans une dimension plus universelle. C'est dommage. Il appuie sur le problème de voir qu'on a des gestes ancestraux qui sont reproduits pourtant depuis des générations et que le monde actuel, ce monde en quête de sens n'en connaît plus la signification et les gens ne savent plus ce qu'ils ont perdu ni même ce qu'ils espèrent. Donc, Yerul Degger, c'est un roman désenchanté, mais qui a une belle énergie et son héros, qui s'appelle aussi Yerul Degger, donc, est un personnage magnifique qui survit à tous les désastres personnels. C'est un hymne à l'intégrité qui laisse transparaître, moi je dirais, une certaine sensibilité et un idéalisme chez l'auteur, un peu enfantin, je dirais, un peu naïf. On peut se demander si Yerul Degger, c'est pas un peu son l'Iliade et l'Odyssée à lui, un héros des temps modernes qui survit à tout.
Ulysse.
Voilà, l'Ulysse. Donc, on va écouter Drive, à moins que mes partenaires aient envie d'ajouter quelque chose.
Non, je pense que tu as dit l'essentiel et ce qu'il fallait dire, mais effectivement, c'est un polar dans lequel on rentre, même s'il y a des scènes, effectivement, à certains moments, quand même, il y a des scènes assez violentes. Hein. Mais bon, on a des petits temps de respiration, quand même, hein, ouais. Heureusement. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, bon, voilà, c'est ce que tu disais, ce pays, un équilibre, là, entre tradition et modernité, pour aller vite, on va le dire comme ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est dans l'écriture et dans la façon dont c'est construit. Ce sont des petits paragraphes courts. Et l'écriture, elle est quasi cinématographique. On a vraiment cette impression-là.
Ouais, c'est quelque chose qu'on verrait en film.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Bon, bah, donc, on va écouter Drive, Real Hero, avec le beau Ryan Gosling qui pourrait jouer Yerul Degger, on va dire.
Thank you.
Donc on va partir un petit peu en voyage aussi, mais de façon un peu plus légère quand même, avec Enola, la gargouille qui partait en vadrouille. C'est le tome 1 d'une nouvelle série donc qui s'appelle Enola. Joris Chamblin en est le scénariste et Lucie Thibaudier l'illustratrice. Et ces deux auteurs ont déjà travaillé dans le domaine de la littérature jeunesse et ont obtenu ensemble plusieurs prix, dont les prix sorcières. Alors dans cette BD, Enola est une petite fille qui exerce un bien curieux métier. Elle est vétérinaire, spécialiste des animaux extraordinaires, des contes et légendes. Elle soigne même un phénix très enrhumé qui n'arrête pas de renaître de ses cendres. C'est peu dire. Un beau matin, elle est appelée en urgence par le curé du village, très mécontent. La nouvelle gargouille installée sur le mur de l'église pour évacuer les eaux comme toute bonne gargouille qui se respecte, pose un gros problème. Chaque nuit, elle se retourne sur son socle et prend un malin plaisir à arroser fidèles et passants. Et comble du comble, elle asperge la mariée sur le parvis. Donc rien ne va plus, même le sculpteur ne peut plus rien et le curé menace de la détruire. Mais tout ça, c'est sans compter sur Enola, bien sûr, qui va mener l'enquête. Elle observe, ausculte, s'interroge sur cet étrange phénomène. Alors, la gargouille a-t-elle le vertige? Est-ce qu'elle a mal au ventre? Elle a peur de la nuit? Qu'est-ce qu'elle regarde et vers qui se tourne-t-elle? Donc, autant de questions, évidemment, auxquelles l'intrépide Enola va pouvoir répondre, accompagnée de son assistant Maniki, le chat, toujours collé à ses bases, qu'il est drôle comme tout, ce chat. Voilà, donc tout ce petit monde va trouver les réponses. Dans un contexte dont on ne connaît rien, ni l'époque ni les lieux, le scénariste développe donc ce récit plein de fantaisie, plein d'humour. Et j'ai trouvé que c'était remarquablement bien mis en image par les illustrations de Lucille Thibaudier, mises en couleur par des aquarelles, des alternances un petit peu de jour et de nuit, des illustrations qui sont toujours dans une très belle mise en page. Et je trouve que tout ça crée bien l'atmosphère de cette petite histoire. Donc La Gargouille qui partait en vadrouille, c'est le premier album d'une nouvelle série, Enola, qui s'appelle d'ailleurs Enola et les animaux extraordinaires, au catalogue de La Gouttière. Voilà.
Et ça, donc, c'est l'illustratrice, je crois que c'est celle qui avait fait le carnet de cerises.
Oui, voilà, c'est voilà. Ça, oui. Et, donc. Oui, oui, c'est elle qui avait créé, entre autres, les carnets de cerises. Donc, c'est une BD qui est adaptée pour les plus jeunes, on va dire, hein, pour les 6-8 ans. Et
oui, même
je
plus
pense
grand,
que ça voilà. Fonctionne bien. Bon, voilà, à partir de cet âge-là, on va dire. Voilà.
Donc, on va écouter, évidemment, avec les gargouilles, une chanson de la BO du Bossu de Notre-Dame, chantée par Francis Lalanne, qui s'appelle « Rien qu'un jour ».
Le monde est cruel, le monde est méchant. Je suis le seul qui veuille ton bien dans cette cité. Je suis ton seul ami. Je te nourris, t'instruis, t'offre un abri. Je regarde ta laideur sans peur. Comment protéger ta vie si tu ne demeures pas ici, toujours ici? Rappelle-toi ce que je t'ai appris, Quasimodo. Tu es difforme.
Je suis difforme.
Et tu es très laid.
Et je suis très laid.
Ce sont des crimes aux yeux des hommes qui sont sans pitié. Mais tu ne comprends rien.
Vous êtes mon défenseur.
En bas, ils te traiteront de monstre.
Je suis un monstre.
En bas, c'est la haine et le mépris.
Oui, rien qu'un monstre.
Tu dois fuir leur calomnie, leur intolérance. Reste ici, reste-moi.
Oui, on voulait rectifier une petite erreur qu'on a faite, c'est que c'est pas l'illustratrice qui a fait les carnets de cerises, c'est le scénariste et il a été récompensé au Festival d'Angoulême. Voilà, cette petite bande dessinée se termine au Musée d'Histoire Naturelle. Et ça va permettre à Joël de rebondir avec André Léo.
Avec Notre-Dame, ça aurait suffi. Et c'est vrai que le musée d'histoire naturelle, c'est pas la commune, c'est le siège de Paris. C'est là qu'il y avait des animaux qui étaient en zoo et qui ont été mangés allègrement par les gens qui vraiment avaient rien à se mettre sous la dent. Donc André Léo, je l'ai laissé la semaine dernière, juste au début de la Commune de Paris, mais ses principes, j'avais dit qu'il avait un certain nombre de principes, et vous avez repris en disant que c'était une femme parfaite, mais ça va lui jouer de mauvais tours, et Edith Thomas, dans ses Pétroleuses, les résume ainsi, je cite Edith Thomas, André Léo pose implicitement l'éternelle question de la fin et des moyens. Comment mener une politique juste avec des moyens injustes alors que la fin est toujours contenue dans les moyens qu'on met en œuvre pour atteindre et pour l'atteindre et qui la détermine. Voilà, ça c'est un principe qu'elle a toujours respecté, si bien qu'elle est rentrée en conflit, vous pouvez le voir, avec tous les pragmatiques qui pensent toujours que c'est la fin qui justifie les moyens. Et la première opposition pendant la Commune elle-même, ça a été avec le général de la Commune, Dombrowski, qui disait que lui, les femmes l'intéressaient pas parce que elles étaient trop faibles et bon, elles avaient pas besoin d'aller aux barricades. Et André Léo a commencé à lui dire que heureusement que les femmes étaient là, sinon les canons de Montmartre auraient été embarqués par les Versaillais. Bon, voilà une première opposition. Elle s'est aussi opposée à l'international et à Marx, qui à ses yeux était beaucoup trop dirigiste et dogmatique. Elle s'est opposée aussi aux anarchistes qui étaient opposés à Marx parce que les anarchistes, elle les trouvait aussi peu démocratique que possible, démocratique dans la pensée, mais dans la pratique quotidienne, ça marchait pas trop bien. Donc, elle s'est opposée à tout le monde. C'est un peu pour ça qu'elle a été oubliée, puisqu'il n'y a plus personne pour la continuer à la valoriser. Heureusement, elle a ses amis et elle a ses textes. Parce que comme je vous disais en début d'émission, avant de prendre le micro, c'est un texte que tout le monde devrait, toutes les femmes au moins, devraient lire, parce qu'il est absolument d'actualité. C'est de André Léo, La femme et les mœurs. C'est dans ce texte-là qu'elle défend, qu'elle s'oppose, pas à n'importe qui, elle s'oppose à Proudhon, elle s'oppose à Michelet, qui considérait que Proudhon considérait que le cerveau des femmes était plus petit, pesait moins que le cerveau des hommes, c'est pour ça qu'il fallait les laisser de côté. Donc, des textes vraiment extrêmement originaux, qui ont été utilisés, bien sûr, par le mouvement des femmes dans les années 70. Ça, c'est un des aspects, mais c'est toujours aussi ce qu'elle a souhaité même. Elle a dit on ne peut rien faire sans l'éducation. Elle a tout le temps essayé de mener l'éducation, non seulement de la jeunesse, mais aussi du peuple, et puis aussi des paysans par opposition aux citadins. Elle a écrit un appel aux paysans en disant la terre à ceux qui la travaillent, l'ouvrier à ceux qui s'en servent. Et c'est effectivement, c'est extrêmement révolutionnaire, et ça n'a pas plu non plus à tout le monde. Le dernier texte qui est absolument d'actualité et qu'elle a publié en 1899, juste un petit peu avant sa mort, c'est son dernier texte, et qui s'appelle Coupons la corde. Coupons la corde, c'est ce qui relie les hommes à la religion. La politique aux religieux, coupons la corde, c'est la séparation absolue de l'Église et de l'État. Donc c'est en avance déjà de 6 ans par rapport aux lois qui vont être prises un petit peu plus tard. Mais c'est surtout un texte qui réfléchit sur qu'est-ce que la religion et comment on peut arriver à couper cette corde-là. Et surtout par rapport à toutes les institutions. Bon, André Léo, c'est une écrivaine à redécouvrir, parce que ses romans sont très intéressants. Et puis, bon, elle est d'actualité par ses textes politiques. Et je vous fais écouter un texte de Jules Jouy, qu'elle n'aurait pas désavoué, je suppose, le temps des crises. Vous reconnaîtrez la musique.
Beau temps des crises, quand pauvres sans pain et riches gavés, nous sommes aux prises. Les drapeaux de Mars flotteront aux brises,
les drapeaux vermeils sur qui vous bavez.
Vous regretterez le beau temps des crises quand viendra le peuple en haut des pavés.
Quand vous pleurerez le beau temps des crises,
le vil renégat et l'accapareur enverront de grise. Les politiciens auront des surprises,
les Judas au ventre auront la terreur.
Quand vous pleurerez, le beau temps des crises grondera partout
la rue en fureur.
Donc, Joël me dit de rectifier, il ne s'agit pas d'une corde, mais d'un câble.
Coupons le câble.
Voilà, aujourd'hui, nous vous avons présenté Hieroldegger de Yann Manok au livre de poche, une bande dessinée pour 9 à 12 ans, Enola, les animaux extraordinaires aux éditions de La Gouttière. Et Joël tient absolument à ce que nous, les femmes, mais bon, les hommes aussi, lisions La femme et les mœurs d'André Léo, avec un sous-titre Monarchie ou liberté, aux éditions du Léraud. L'émission était présentée par Joël Monique avec Lisa à la technique. Au revoir à tous et à la semaine prochaine.
L'idée livre, votre rendez-vous littéraire, vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.